Bien-aimé en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices, vous tous qui écoutez ce message, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous et son esprit aussi. Nous sommes dans la continuité de la série sur le thème « Élargir l'espace de ta tente » que nous étudions depuis plusieurs semaines déjà en nous inspirant du texte prophétique d'Ésaïe 54. Dans le message précédent, nous avons déjà parcouru du verset 1 au verset 11 et nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, essayé de comprendre et de capter la quintessence de la pensée de Dieu sur ce qu'il dit à son peuple en cette saison où il veut mener son Église à un niveau supérieur d'accomplissement, de conquête, d'expansion, oui. Nous avons pris connaissance dans les détails des recommandations et des instructions qu'il nous donne, des objectifs qu'il veut atteindre avec nous. Nous avons reçu l'assurance de la restauration qu'il nous garantit et nous sommes rendus depuis le message dernier à la révélation de ses actions en notre profit. Nous sommes rendus là donc à l'étude du verset 11 et 12, qui sont les actions de Père. Et nous avons essayé de comprendre la fois précédente ce que l'Éternel, notre Dieu, veut de façon pratique nous dire quand il proclame « Je garnirai tes pierres d'antimoine ». Nous avons étudié ça et nous avons été vraiment bénis, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le deuxième point de son plan, qui est le verset 11b, où il dit « Je te donnerai des fondements de saphir ». Voilà. Avant d'entrer dans le développement de l'étude, prions, remettons ce temps de partage entre les mains du Père et sous la conduite de son Esprit, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, oh, toi qui règnes dans tous les temps, oh Père éternel, toi qui es le seul éternel, oh Dieu, nous te bénissons et te rendons immense action de grâce, Papa. Nous venons, Père éternel, remettre devant ton trône de grâce ce temps de partage au Père. Et nous t'invitons, Seigneur, de Père Tout-Puissant, à être au milieu de nous. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu nous dis dans ta parole que tu es présent. Ô Seigneur, sois présent en ce moment, Père éternel. Laisse ton esprit nous conduire en toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens, prends contrôle de tout. Prends contrôle de nos corps, nos âmes, nos pensées. Établis toi-même la pensée de Dieu en nous. Parle par nos bouches et dispose le cœur de mes frères et sœurs à l'écoute et à la réception des révélations que tu vas libérer en ce jour, afin que nous soyons édifiés tous pour marcher dans les voies de notre Seigneur Jésus. Et c'est en son nom que nous avons élevé cette prière. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, Amen. Voilà. Je te donnerai des fondements de saphir, dit l'Éternel. Alléluia. Ce qui est sûr ici, quand nous regardons, c'est que Dieu veut assurément nous donner quelque chose. Je disais dans les autres passages que, vu de ces enseignements aussi, c'est amener le peuple de Dieu à chercher la connaissance à travers des mots. Les premières lectures de la Bible, ne nous arrêtons pas au premier niveau de compréhension de la Bible. Oh, Logos, non. Ne nous arrêtons pas à ce qui est écrit. Allons, fuyons, sondons, demandons à l'Esprit Saint de nous conduire à la compréhension des niveaux 2, 3, 4. Les écrits, les chercheurs, ceux qui ont travaillé, ça, disent que particulièrement la parole de Dieu, ou dans le domaine de la conscience, il y a 7 niveaux de compréhension biblique. Nous n'allons peut-être pas prétendre arriver aujourd'hui au 7e niveau, laissons ça. Mais commençons déjà au moins à chercher la révélation. Au 2e, 3e niveau, allons chercher derrière les mots qui sont écrits. Quelle est la pensée véritable que l'Éternel nous dit? Parce que ce n'est qu'à ce niveau que nous pouvons saisir et rendre, transformer ça en action pratique, saisir la pensée de Dieu et pouvoir le mettre en application dans nos vies et laisser la parole, qui est une parole de vie, la révélation de Dieu, nous nourrir de l'intérieur. C'est pour ça que nous prenons le temps d'aller chercher, fouiller, sonder pour recevoir et comprendre les différentes choses. Je vous disais dans les premiers, vous vous souvenez, que quand moi j'ai lu une phrase comme celle-là, elle est prometteuse, mais je ne comprends pas grand-chose. Et tant que je ne vais pas comprendre, ça ne va pas m'aider, parce que je ne vais pas posséder ce qui est dit dedans. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis, allons regarder ce que l'Éternel veut dire. Amen. Quand je regarde, je me dis, bon, les mots comme « et »,« je »,« te », »,« des », voilà, on comprend ça, c'est clair. Donnerai, fondement, saphir. Voilà trois mots qui peuvent attirer notre attention. Quand on dit donnerai, je me dis, bon, je ne vais pas encore aller fouiller ça, j'ai quand même compris. Donner quelque chose, c'est faire un don. Ça veut dire que Dieu, ici, dispose qu'il va nous faire un don, qu'il va disposer, déposer en nous quelque chose. Donc là, c'est clair. Et ce qu'il prépare, ce qu'il dispose de déposer, ce sont des fondements. Il dit, je te donnerai des fondements. Oh. Des fondements de saphir. Là, ça devient un peu corsé. Urgent, j'ai envie de savoir ce que ça veut vouloir dire, ça. Des fondements de saphir. Alors, on part. Ici, il dit des fondements. Il m'a semblé ici important de faire remarquer quelque chose. Quand nous avons traité, quand on fait le message précédent, il disait, je garnirai tes pierres d'antimoine. Et nous avons relevé quelque chose de particulier, c'est que dans cette promesse-là, il parlait de tes pierres. Et que le mot tes était particulier parce que ça voulait dire que les pierres dont il parlait, sur lesquelles il allait faire quelque chose, venaient de toi. C'est-à-dire que tu avais une implication directe dans cette promesse-là. Il y avait une part qui te revenait de faire, nous l'avons étudié. Nous avons vu que les pierres, ce sont tes besoins, les évaluations que tu as faites de tes besoins, l'identification que tu as faite de tes besoins, l'étude que tu as faite de ton projet qui devait faire ressortir des pierres que toi tu aurais à présenter à l'Éternel. Donc, il y avait une part de toi à faire. Ici, il y a une nuance. Il dit, je te donnerai des fondements de saphir. Waouh, tout de suite, je me dis, voilà une promesse dans laquelle je n'ai qu'à recevoir. Parce que quand il dit des fondements, c'est impersonnel. Ce que je comprends, c'est que ces fondements ne viennent pas de moi. Ces fondements, je n'aurai rien à faire pour pouvoir déposer ces fondements. C'est une promesse dans laquelle l'Éternel est au début et à la fin, surtout. Moi, l'Éternel, je te donnerai des fondements de saphir. Oh, gloire à Dieu, moi, je me prépare seulement à la recevoir, là. Je fais mon processus de compréhension, j'appelle l'Esprit Saint, l'œuvre de l'Esprit Saint en moi pour qu'il m'amène à saisir de quoi il s'agit, que je puisse reconnaître ça, avoir la connaissance de ça pour pouvoir enfanter le résultat en moi, donc recevoir. Alléluia. C'était important de préciser cette nuance pour que les enfants de Dieu qui sont dans cette attente puissent recevoir cela. Et fondement, nous parlons, depuis nous sommes dans un processus de bâtissement, disons depuis de projets à bâtir, d'élargissement, d'expansion et toutes les choses qu'on bâtit. C'est pour ça que les termes ici sont des termes qui tournent autour de la construction, de bâtir. Et dans ce domaine-là, qui dit bâtir, dit fondation. Donc, on va essayer de voir ce qu'est sont des fondations. Ensuite, nous allons rentrer dans ce que peut être la nuance du fondement. Alléluia. Quand nous regardons le dictionnaire français qui a utilisé ce mot fondation-là, quand nous regardons le dictionnaire français, il nous dit que les fondations, c'est l'ensemble des travaux qui vont conduire à façonner les assises d'un édifice qu'on est en train de bâtir. Voilà. Moi, je comprends que c'est la partie qui va porter et supporter l'ensemble d'un bâtiment, l'ensemble d'un édifice, l'ensemble de ce qu'on est en train de construire, en vue de lui assurer une solidité. Voilà le rôle des fondations. Alléluia. Et dans la plupart des cas, c'est la partie invisible de l'édifice. Très souvent même, on ne voit pas quand un bâtiment est fait que les fondations débordent. Non. Les fondations sont toujours enfoncé dans le sol. Et plus le bâtiment est haut, et imposant, toutes ces fondations sont profondément ancrées dans le sol. Et juste pour anecdote comme ça, moi je pensais à quelque chose. Le Japon, au Japon, nous savons que le Japon est un pays, est une île, et c'est situé sur une faille, ce qu'on appelle des failles tectoniques, donc c'est une région qui est sujette au tremblement de terre, au séisme, à de hauts niveaux. Donc ce qui a poussé un peu les Japonais à chercher la solution à leurs problèmes et réfléchir la façon de construire les bâtiments chez eux pour être un peu à l'abri de ces influences tectoniques. Et l'ingéniosité de tous leurs chercheurs, des ingénieurs, et l'habilité des architectes, ils sont arrivés à se dire que pour construire des immeubles et tout, ils allaient dans les fondations faire une espèce de structure qui soit un peu sur des roues, sur des poulies métalliques, qui permettent que l'ensemble de l'immeuble enfoncé dans le sol ait une latitude, une amplitude pour bouger devant, derrière, à gauche, à droite, de façon à ce que quand le sol tremble, cette amplitude donne la possibilité à l'immeuble de tanguer, mais de ne pas subir les forces de pression qui vont la faire écrouler, qui vont la briser. C'est ingénieux, seulement que ça peut marcher jusqu'à un certain niveau. Quand on a entendu dernièrement avec tout ce qui est arrivé à Kobe, tout ce qui est arrivé même à Tokyo, même que certains immeubles, même à bâtir avec ces fondements-là, se sont écroulés. Pourquoi? Parce que l'amplitude qui est arrivée, le séisme qu'ils ont subi était d'une amplitude assez costaude. Parce que personne ne peut contrôler la nature, personne. Mais ça, ce sont des fondations de main d'homme. L'Éternel nous dit ici, quand vous voulez bâtir avec moi, moi je vous fais des fondements. Et je leur donne même une nature particulière, des fondements de saphir. Quand on parle de fondements, ce sont des bases, ce sont des éléments essentiels sur lesquels s'appuie tout le reste de ce qui est bâti. Tout ce qui doit grandir, tout ce qui doit prendre de l'ampleur. Ce sont des principes de base, des principes fondamentaux sur lesquels un système est établi. Tout ce qui est appelé à exister, à grandir, à prospérer, doit être ancré, doit être fixé, doit s'appuyer sur des fondements. Ces éléments incontestables qui font des fondements, ces éléments qui font des fondements sont essentiels, oui, doivent être incontestables, inchangeables, non négociables, inviolables, incontournables. Ils servent comme ça de préalable à tout projet, parce que ce sont assises. Et les fondements ont un but particulier, c'est celui d'assurer la solidité et la longévité. Je vous définis là la définition, le sens hébraïque du mot fondement. C'est le mot yakab. Et ça veut dire établir ou avoir établi. Ça veut dire fixer, être fixé. Ça veut dire, je me dis, ça veut dire désigner ou être désigné, ordonner ou avoir été ordonné pour commencer à agir. Les fondements, c'est les précurseurs de tout ce qui doit être fait. C'est ce que l'on place avant toute chose. Quel que soit ce qui doit être bâti, construit avec Dieu, Dieu dit que les fondements, c'est ce qui précède tout ça. Allô? Et Dieu nous dit, dans les actions qu'il va mener avec nous, dans le cadre d'élargir notre tente, de notre expansion, Dieu nous dit, moi je vais te donner des fondements. Certainement, c'est pas parce que nous en tant qu'hommes, nous sommes incapables de nous définir des propres, nos règles, définir des règles, des principes même, arrêter même en tant que chrétiens, nous lisons la parole, nous prenons des grandes résolutions, nous disons on va faire ci, on va faire ça, non, moi je ne peux pas, je ne vais pas faire ça, je suis arrêté. On définit des règles pour bâtir, on met des choses qui sont, nous sommes intelligents, Dieu nous a fait intelligents. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance, il nous a donné toutes ses aptitudes. C'est à l'image des Japonais, là. Ils étaient intelligents, ils avaient de l'habilité et tout. Ils ont conçu cela, leur fondement, leur fondation comme ça. Et voilà le résultat. C'est un peu ce que nous faisons tous les jours quand nous rafistolons un peu à gauche, à droite, un certain nombre de choses. Nous façonnons comme ça nos propres fondements. Mais simplement, Notre nature, même de croyants, n'est pas en mesure de générer véritablement dans nos pensées des fondements dont Dieu parle. C'est-à-dire des choses qui sont incontestables, des choses qui sont inchangeables, des choses qui sont inviolables. Notre nature humaine, même en tant qu'enfant de Dieu, même en tant que né de nouveau, n'est pas en mesure de faire ça. Il n'y a que Dieu seul qui peut établir cela en nous. Il y a une dimension de perfection dans ce que Dieu veut, que lui seul est capable d'établir en nous. Seul son esprit, il a dit dans sa parole, ce n'est ni par votre puissance, ce n'est ni par votre force. Même pas, ce n'était pas votre, c'est ni par la puissance, ni par la force, sous-entendu de n'importe qui. Seul l'Esprit de Dieu est capable de faire ces choses. C'est pour ça que l'Éternel dit, je vais vous donner, moi je vais disposer cela en vous. Parce que je veux que nous allons loin, je veux que nous arrivions loin. Pour si il faut que nous arrivions au but, il faut que c'est des choses que moi-même je dois mettre. Parce qu'il n'y a que ce qui vient de moi qui est pérenne. Moi, je pense que c'est ce que le sage Salomon avait compris véritablement et a dit dans un de ses cantiques, dans le psaume 127, parce qu'on pense toujours que tous les psaumes sont de David, mais il y en a qui sont d'autres personnes, il y en a qui sont particulièrement de Salomon, c'est surtout ceux de latin. Le psaume 127, c'est un cantique de Salomon, et il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça, il avait déjà compris. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Salomon est celui qui avait bâti le temple de l'Éternel. Et nous pouvons imaginer toutes les réflexions, les pensées, les ingéniosités, tout qu'il a dû imaginer pour pouvoir accomplir cela. Heureusement que Salomon, avant même de commencer toute chose, avait dit, Seigneur, mon Dieu, le Dieu de mon Père, je ne peux pas. Je suis incapable de faire ce que tu me dis de faire. Donne-moi la sagesse pour aller faire ça. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions avec lui. Donne-moi la sagesse pour aller faire ça. Fais-le toi-même au travers de moi. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, tout ce que l'on bâtit sans avoir pris la peine de veiller et de s'assurer de la nature des fondements et de la qualité des fondations qu'on est en train d'établir, sur lesquels on va poser ça, est appelé à plus ou moins long terme à nous, à s'écrouler, à devenir inexploitable, voire même dangereux pour vous-même, pour les autres. C'est une loi divine, mes bien-aimés. Elle est valable dans tous les domaines de la vie, quel que soit le sujet, quel que soit le projet. Ce n'est pas seulement pour une maison qu'on bâtit, ni pour une entreprise qu'on bâtit. Pour un mariage, pour une union, un partenariat, une entreprise, tout un ministère. Un projet de vie même personnel. Et je te donnerai des fondements de saphir. C'est la promesse de l'Éternel. C'est le plan qu'il dit qu'il va établir en nous. Non seulement il nous dit qu'il va nous donner, qu'il va nous faire ce don, et qu'il va nous façonner lui-même nos fondations, qu'il va établir lui-même ses fondements en nous. Mais il va plus loin. Il nous donne même la nature, la qualification des fondations qu'il va établir en nous. Quand il dit « je vous donnerai des fondations de saphir », ça veut dire qu'il y a plusieurs types. Soit qu'il y a plusieurs types de fondations, soit alors que la qualification de saphir caractérise ses fondations à lui. Donc, il est important que nous puissions saisir la nuance de cette comparaison, de ce mot saphir-là, pour pouvoir être imprégné de types de fondements dont l'Éternel veut nous, dont l'Éternel promet de nous équiper, et pour pouvoir discerner. Je vous ai dit que quand on va essayer de comprendre les choses, c'est pour pouvoir aussi les identifier quand ils arrivent. Sinon, nous risquons de passer à côté de la réception. Si on te donne quelque chose que tu n'es pas en train de voir, si je viens, je dis, je tends, tu vois un main qui est tendue, mais si tu ne vois pas la main tendue, peux-tu saisir ce qu'on est en train de te donner? Non, mon frère, ma soeur. Si tu ne peux pas, tu n'es pas en mesure de pouvoir discerner ce que l'on te donne au moment où c'est en train d'arriver, tu vas passer à côté. Si tu n'apprends pas à discerner une connexion, un une opportunité qui vient dans ta vie, tu ne l'auras pas. Donc c'est un peu ça ici, il faut que nous comprenions c'est quoi la nuance qui s'attache au saphir pour pouvoir discerner ces fondements-là, ces éléments essentiels que l'Éternel veut planter, veut semer en nous. Comme ça, quand nous les verrons soit se manifester ou quand nous comprenons par la parole ce que ça signifie véritablement, nous irons chercher ça. Nous tendrons les mains pour recevoir cela. Alléluia. Donc, nous allons tout le long de cette partie qui parle des actions de Dieu, nous allons nous rendre compte que Père utilise beaucoup de comparaisons avec des pierres précieuses. Et c'est à dessein. Ça nous, moi, ça me ramène au niveau de la Bible et je parcours et je me suis rendu compte que tout le long de la Bible, toute la trame, on parle beaucoup de pierres précieuses car chaque fois que les situations ou les contextes se rapprochent à la nature de Dieu, touchent à la nature de Dieu, on fait toujours allusion ou à la présence de Dieu, on fait toujours allusion aux pierres précieuses. Nous n'avons qu'à regarder comment il est largement fait étalage et des pierres précieuses taillées et des choses précieuses quand on parlait du tabernacle et notamment au niveau du lieu saint avec le propitiatoire, avec, c'est très détaillé et en particulier aussi avec l'équipement du sacrificateur. En parlant du pectoral de jugement qui portait les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus, comment les autres éléments qui habillaient le sacrificateur étaient faits de pierres précieuses. Tout cela a une signification importante. Nous regardons aussi dans la vision de Jean ou d'Ézéchiel, chaque fois qu'ils ont une vision de Dieu, ils ont une vision de manifestation comme ça de la gloire de Dieu. Les comparaisons qu'ils font, c'est des comparaisons avec des pierres précieuses. Pareil pour la Jérusalem céleste, pareil pour le tabernacle céleste que nous attendons tous. Comment quand nous voyons dans la vision de Jean ou d'Ézéchiel comment c'est décrit, nous voyons comment tout est comparé aux pierres précieuses. Ça a une importance. Je faisais un travail sur les pierres dans le royaume de Père pour le peuple sacrificateur. Ça fera l'objet d'un enregistrement peut-être plus tard. Et je me rendais compte que les pierres précieuses étaient non seulement portaient véritablement des messages divins, étaient associés aux messages divins et étaient également porteur, révélateur de la nature divine. Et quand on parle de fondement, c'est que l'Éternel veut nous inculquer une partie de lui-même de façon à ce que nous puissions être aptes à marcher avec lui, à bâtir avec lui. Amen. Nous avons vu également dans le message précédent, quand nous parlons de pierres, que les pierres sont l'ensemble des besoins que nous avons évaluer, identifier, etc., et qui doivent contribuer à bâtir le projet que nous avons à bâtir avec Dieu. C'est l'ensemble des choses qu'il nous faut, qu'elles soient matérielles, nature ou d'autres ordres que ce soit, ce sont des choses qu'il nous faut pour pouvoir bâtir. Mais quand nous disons ici, quand ces pierres deviennent précieuses, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, je garnirai tes pierres dans tes moines, ce que toi tu as, je vais les garnir dans tes moines. Mais moi, je te ferai des fondements de saphir, donc des fondements précieux. Donc, les pierres, parce que c'est toujours des choses qui vont nous équiper pour marcher avec Dieu, ces pierres, Dieu, lui, les façonne de façon précieuse. Donc, c'est important d'aller regarder ce que ça signifie, un peu ça. La notion de la pierre précieuse, il faut que nous comprenions, parce que ça a une définition assez particulière. Nous savons dans le monde qu'une pierre précieuse, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de cher, qui a de la valeur, qui est riche et que prenons comme ça. Mais si Dieu fait allusion à ça pour définir certaines choses, il veut parler de quoi? Ici, précieux se définit, dans le langage hébraïque, et ça veut dire délice. Ça signifie désir, un désir ardent. Ça signifie le bon plaisir, ce qui fait le bon plaisir est précieux, définis ça comme précieux. Donc, ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est ce qui doit procurer des délices. C'est ce qui doit être agréable à Père. Donc, il y a ici dans la pierre précieuse une notion de préciosité. La notion, comment j'appelle la notion de préciosité, c'est la notion qui amène que quelque chose est défini précieux aux yeux de Père lorsque non seulement il fait l'objet de tes désirs ardents, mais que surtout il procure le bon plaisir de Père. Que ce soit quelque chose qui lui est agréable. Amen. Donc, il y a deux éléments ici qui se joignent pour constituer la notion de préciosité. Il y a la notion du désir, du plaisir, de l'agréabilité, oui, mais des deux camps. Ça doit te faire plaisir, oui. Ça doit être pour l'objet de tes désirs, oui, mais ça doit procurer un bon plaisir à Père. Ça doit lui être agréable. Voilà la définition de préciosité. Voilà la définition de pierre précieuse. Donc, tout ce qui est agréable à Père et qui fait ton plaisir est une pierre précieuse pour Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, quand Dieu met les pierres précieuses partout, c'est parce que ce sont des choses qui lui font plaisir. Ce sont des éléments, ce sont des pierres, ce sont des besoins, ce sont des outils, ce sont des choses qu'il faut en nous qui font plaisir à Père. Alors, lui, il dit qu'il va établir des fondements de saphir. Ça veut dire que parmi toutes les pierres précieuses, lui, il a choisi le saphir parce que ça donne l'image de ce qu'il veut établir comme fondement. Alléluia. Et nous venons dans cette notion de préciosité, voir encore que David aussi avait compris ça. David avait compris ça et il l'a proclamé, il l'a dit, il a chanté dans son psaume 37. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'il avait saisi cette notion de préciosité. Il avait saisi que ces choses doivent aller ensemble pour être parfaits ou non, aux yeux de Dieu. Alléluia. Voilà. Ça doit combler les désirs. Ça doit être agréable à Dieu et ça doit combler tes désirs. Donc, ces choses sont ensemble. Et pour chaque pierre précieuse, à chaque pierre précieuse, il est rattaché à une nature particulière de Dieu. Donc, quand il dit, il a choisi, il a opté que les fondements qu'il doit te donner doivent être de saphir. Voyons à quoi correspond le saphir. Comme ça nous permettra de comprendre de quelle nature Dieu veut nous équiper de ses fondements. Comme ça, nous pourrons, même dans nos prières, demander que cet équipement vienne à nous parce que nous les avons identifiés et nous savons que ça fait plaisir au cœur de Père parce que ce sont des choses qui lui sont précieuses. Alléluia. Allons regarder de quoi il s'agit. Il a dit, c'est de saphir que nous allons avoir des fondements. Quand on prend le saphir, c'est une pierre précieuse, d'accord? On la définit comme étant une pierre précieuse de très grande valeur. Un. De très grande dureté. Deux. Elle est transparente. Trois. Elle est de grande pureté. Elle est de grande rareté. Voilà les caractéristiques que l'on accorde au saphir. Et elle est de couleur variante, dans une variante de bleu, d'un bleu pur à un bleu transparent que l'on appelle le bleu ciel. Donc, voilà le contour du saphir, de la pierre précieuse qu'on appelle saphir. De grande valeur. Quand on va regarder plus précisément, ça définit, ça parle de dignité. On dit, c'est quelque chose qui doit être digne. C'est une grande dignité. Ça ne dénote pas aussi seulement le prix, son coût. Oui, parce que la véritable valeur qu'il y a autour du saphir, c'est la dignité. Alléluia. Donc, ayez une pensée que le fondement que Dieu veut introduire en toi, déposer en toi, c'est une notion de dignité. Dieu veut t'amener à être quelqu'un de digne. Alléluia. De grande dureté. La dureté se définit par la résistance qu'on peut avoir, résistance aux intempéries, aux situations externes, aux agressions externes. Et cette résistance est une absence de fragilité. C'est-à-dire, tu peux être résistant, mais avoir quand même quelques points de faille. Non, le saphir n'a point de fragilité. C'est une absence de fragilité. Il y a un mot aussi qui a été utilisé pour définir cette caractéristique de dureté, c'est de l'intransigeance. Alléluia. Je me suis dit, voilà un caractère. Mes frères et mes sœurs, notez ça. L'intransigeante. Dieu dit que le saphir confère une intransigeance. Tu es intransigeant avec les choses que tu fais avec Dieu. Alléluia. Il y a une notion de transparence. On peut dire, nous tous, nous connaissons ce que ça veut dire transparent, non transparent. On voit à travers, oui. Transparent veut dire qui laisse passer la lumière, qui permet de voir à travers. Ça, c'est la définition. Moi, j'avais dit logos. Mais quand on dit quelqu'un est transparent, c'est que la personne n'a aucune dissimulation en lui. Rien n'est caché. Pas d'hypocrisie. Pas de fourberie. Que la personne marche dans la vérité avec Dieu. La personne a saint à ses reins, la ceinture de vérité de Père. Il marche dans la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Le saphir, c'est une pierre qui a une grande pureté. La pureté, ce n'est pas seulement une notion de propreté, ce n'est pas une notion seulement de manque de bactéries ou... Ça définit d'abord quelque chose qui est sans mélange. Quand on dit que quelque chose est pur, c'est qu'il n'y a pas de mélange dans cette personne. Il n'y a aucune compromission. On ne mélange pas les natures de choses. Elle est intègre. C'est la notion d'intégrité. C'est-à-dire complet dans la même nature. C'est aussi quelque chose qui est sans défaut, sans pollution. Oh. Ça introduit une notion de sanctification ici. Mais surtout une notion de sainteté. Soyez saints, comme votre Père est saint. Dieu dit, parce que ce n'est pas des choses que nous sommes capables de faire, et dis-moi, voilà les choses que je vais établir comme base dans ce que nous allons faire ensemble. Je veux communiquer ma sainteté en vous. Alléluia. Le saphir, c'est une pierre rare. Et la rareté ici se définit comme, oui, être peu nombreux, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est aussi être peu commun, c'est-à-dire la rareté, c'est dans la qualité de la chose qui est faite. Pas seulement dans le nombre, pas seulement dans la quantité, c'est aussi dans la qualité de ce qui est fait. C'est peu commun, ce n'est pas vulgaire. Le saphir est une pierre qui est tellement rare qu'aujourd'hui, c'est la pierre qui a la valeur la plus élevée du marché. Le saphir est plus cher que le diamant. Le diamant est reconnu comme étant la pierre faite à perfection. Oui, mais seulement, le diamant n'est pas rare, le diamant n'est plus rare aujourd'hui. Ça aussi, ça a une très grande portée spirituelle. Parce que le diamant désigne, j'ouvre cette parenthèse pour vous, mes frères, mes soeurs, le diamant désigne les saints de la fin des temps, le corps du Christ, toi, moi, parce que Dieu veut que nous soyons parfaits pour constituer l'épouse, parce qu'elle doit être sans tache ni ride. Ça, c'est le diamant. Mais il faut qu'il soit nombreux, parce que Dieu veut tout le monde. Alléluia. Mais le saphir a toutes ces qualités-là. Mais le saphir est rare, parce que c'est une dimension d'élection. C'est une dimension de... Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le saphir, c'est pour les élus. Parce que l'élection, vous voyez, c'est la victoire de ceux qui ont en eux le véritable désir de payer le prix qu'il faut pour emporter la couronne. Alléluia. Et c'est ça la rareté du saphir. Et vous voyez, mes frères, mes sœurs, toute cette dimension. Dieu dit que ce sont des fondements qu'il veut taper. Ce sont lui ses règles de base. Si quelque chose n'est pas bâti, ce qu'on bâtit avec lui n'a pas cela comme fondement. Oh, ça va pas tenir la route. Mes frères, mes sœurs, si vous avez entendu cela, notez certains, que ce soit désormais le sens de votre quête pour être équipé. Parce que Dieu dit, je donnerai, je vous ai dit, écoutez mes frères et mes sœurs, c'est au futur simple, parce qu'il y a une condition avant, qui se trouve au verset 2 de ce chapitre Ésaïe 54 que nous travaillons depuis quelques semaines et que nous avons développé de long en large. Élargissez l'espace de vos tentes, ne retenez rien, allongez vos cordages, assermissez vos pieux. Voilà ce que vous avez à faire. Et nous avons étudié ça, enfin. Nous avons aussi vu dans les pierres qui doivent être garnies qu'il faut étudier la chose, explorer votre projet pour en extirper les pierres qu'il faut présenter. Moi, je vous ai dit, c'est important. Ce que l'Éternel lui dit qu'il va nous faire, ce qui est sûr, c'est qu'il va le faire. Parce que lui, il n'y a pas une once de variété en lui. Il dit, il fait. C'est nous qui avons une insuffisance. C'est nous qui devons redoubler de désir en nous-mêmes pour accomplir la part qui est pour nous. Préoccupons-nous de la part qui est la nôtre. Ainsi, nous recevrons ce que l'Éternel libère. Alléluia. Sur le plan, nos temps, toujours spirituel, mais sur le plan de maintenant, l'exploration de la nature de Dieu lui-même, dans le cadre de la manifestation de son esprit, le saphir a une couleur. Le saphir est une nuance de bleu. Et le bleu, spirituellement, nous avons vu même dans sa parole, a une place importante dans la sainteté et dans l'adoption avec Dieu. L'arc-en-ciel se déploie, comme on voit, en sept couleurs. Et pour ceux qui ont un peu travaillé dans la parole, nous savons que les sept couleurs de l'arc-en-ciel correspondent aux sept l'esprit de Dieu, cette forme de manifestation de l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu se meut, quand la lumière, elle se déploie en cette forme de ce sein. C'est pas l'objet de traiter ça aujourd'hui non plus. Ça va du jugement et de feu jusqu'à la filiation, à l'adoption, à l'esprit de vie. C'est clair. Et c'est cette couleur, le rouge, le rouge, l'oranger, le jaune, le vert, le bleu ciel, le bleu, et le violet, le magenta. Ce sont les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce sont les sept esprits de Dieu manifestés. Nous en ferons peut-être un message plus tard. Je veux juste prendre quelques éléments dessus pour vous étayer ce que l'Éternel considère, ce que l'Éternel prend en prenant le saphir comme étant la nature qu'il veut communiquer au fondement qu'il veut nous donner. Amen. Et je disais que la variante de bleu nous fixe dans l'esprit de Dieu, dans la manifestation de l'esprit de Dieu sur la couleur bleue. La couleur bleue, il y a deux niveaux de manifestation. Il y a le bleu qu'on appelle croissant le bleu des rois, le bleu des fils, et le bleu ciel qui est le bleu de la sainteté de Dieu, le bleu de l'adoption. Nous allons regarder ça un peu de plus près. Donc, la couleur ciel, la transparence, et qui s'allie aux valeurs que nous avons définies tout à l'heure, de transparence qui devenait beaucoup plus éclairée, parce qu'en fait, le bleu qui part de la gloire manifestée de Dieu s'imprègne de sainteté pour s'éclairer, pour devenir beaucoup plus ciel, beaucoup plus blanc. Alléluia. Donc, le premier esprit que nous allons essayer de voir, étudier, c'est l'esprit de sainteté et d'adoption. Nous le voyons, Paul nous en parle dans Romains 1 au verset 4 et dans Romains 8 au verset 15. C'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit d'adoption. C'est ce désir de Père qu'il a de nous faire devenir des fils. On nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption et c'est par cet esprit d'adoption que nous avons reçu le droit, la possibilité d'appeler Dieu Abba, Père. Donc, nous avons reçu le droit d'appeler par l'esprit d'adoption que Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu faire manifester à la croix. Pour ceux qui ont cru, ils ont reçu le droit d'être enfant de Dieu. Mais la notion de sainteté qui s'y accorde, fait passer de l'enfant de Dieu à fils, mes frères et mes sœurs, parce que ce n'est pas la même chose. Être un enfant de Dieu et être un fils, ah non. Alléluia. Donc, la notion ici, il y a l'esprit de sainteté et l'esprit d'adoption qui sont matérialisés par cette couleur bleue du ciel, c'est-à-dire qui est fait, nous fait partir de notre nature terrestre pour nous élever dans notre nature céleste. Alléluia. C'est l'esprit, comme je disais, qui nous fait appeler Abba Père. Parce que c'est un esprit qui nous fait reconnaître en l'éternel notre seule source de laquelle nous dépendons. Parce que Abba Père, c'est une notion, ça veut dire, ça ne signifie pas seulement Père, ça signifie ma source, ce à quoi je suis rattaché. C'est celui qui est mon soutien. Donc, l'éternel, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont engendrés de Père et qu'il est leur seule source, il est leur seul soutien. Ils dépendent entièrement de ce rattachement à Père. Alléluia. Le Fils est conscient de cette position qu'il a en Père et qu'il sait surtout qu'il doit tout s'abandonner à l'œuvre de Père en lui. C'est celui qui désormais a compris dans les profondeurs qu'en toute chose, il a une seule voie d'attente, c'est Père. Alléluia. C'est quelqu'un qui est arrivé à un stade où il a compris que rien, alors là, rien ne veut venir de lui. Et que tout est par la grâce de Père et par la miséricorde de Père. Cet esprit de sainteté et d'adoption t'aide à prendre des bonnes résolutions qui sont conformes à la justice du royaume. Et c'est cet esprit aussi qui te rend capable de tenir ces résolutions. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. C'est cet esprit-là qui te revêt d'humilité. Sa caractéristique particulière, c'est la dimension d'humilité. Quand nous avons compris cette et intégrer cette notion de source par rapport à l'éternel Dieu notre Père, nous avons atteint un niveau d'humilité que seul l'Esprit de Dieu est capable d'établir en nous. Un niveau de soumission à la volonté de Dieu afin de se laisser nourrir, guider et résister à la tentation. C'est l'Esprit qui se manifeste au niveau, là, des béatitudes, lorsque l'on dit « heureux les miséricordieux, car ils obtiennent la miséricorde ». C'est cet esprit-là qui est en mouvance. Et dans notre prière que nous a laissé notre Seigneur Jésus, dans la prière du Notre Père, ça correspond à la partie où nous nous soumettons complètement et nous disons « Père, ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Parce que même résister à la tentation, aussi érudit de la parole qu'on soit, on ne peut pas. Il y a toujours un niveau où on fléchit, on glisse, on tombe. Père, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Soutiens-nous. Soutiens-nous. Alléluia. Le deuxième esprit, le deuxième bleu du saphir, c'est ce qu'on appelle le bleu roi, le bleu pur. C'est l'esprit de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Et ça se matérialise là par l'onction. Parce que dans le bleu ciel, c'est la mouvance de cet esprit, c'est le souffle que nous retrouvons. C'est ça, l'esprit prend la forme du souffle qui rentre en nous. Ici, l'esprit prend la forme de l'huile, de l'onction. C'est un équipement divin. Comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron et qui fait du peuple de sacrificateurs. C'était cette onction qui nous équipe, qui nous remplit du désir de Père, de payer le prix, de supporter et l'épreuve et la souffrance et la traversée du désert et rester dans notre quête de porter haut la bannière de Christ. Et du royaume de Dieu, de l'exalter bien haut. C'est l'onction qui remplit ceux qui désirent manifester vraiment la puissance de Dieu et établir la présence de Dieu partout où ils vont. C'est l'onction qui remplit les élus. Alléluia. C'est l'onction qui habite ton cœur d'un désir grand, d'une préciosité grande pour accomplir les œuvres agréables à Dieu. C'est cette onction-là. Ça se désire, mes frères et mes sœurs. La puissance, ce désir. Manifester le royaume de Dieu, ce désir. Oh. Et c'est ici que tout le caractère de pureté prend sa légitimité. Parce que dans les béatitudes, ça correspond à heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu ne peux pas désirer la présence de Dieu sans que le travail de pureté soit fait dans ton cœur. Tu ne peux pas dire au Seigneur, manifeste ta présence. La manifestation de la présence de Dieu s'accompagne avec un cœur pur. On dit que l'Éternel regarde au cœur. Il voit les motivations. Il voit ce qui est semé dedans. Et il dit, est-ce que je peux être présent là-bas? Ça se désire, mes frères et sœurs, un cœur pur, ça se désire. Parce que ça ne peut pas venir de nous. Ça se désire dans notre consécration. Ça se quémande à Dieu. Ça se désire cela. Dépose en moi tes fondements. Si nous avons compris cela, Dieu dit, je te les donnerai. Mais si tu prends le temps déjà de demeurer seul avec lui pour enfoncer profondément tes pieds, alléluia, c'est la dimension où tu dis, ô Père éternel, je désire ta présence. Délivre-moi du mal. Extirpe tout ce qui est mal de moi. Ô Père éternel, lave. Tu règnes, tu es puissant, tu es gloire dans tous les siècles, toujours toi. Tu es seul éternel, ô Dieu. Mes frères, mes sœurs, si on n'a pas... Cette dimension est tellement importante. Hein? Heureusement que Dieu lui-même, il dit, bon, moi-même, je veux faire ça en vous parce que... Bon. Et déjà aussi parce qu'il veut s'assurer que marcher avec lui, nous allons marcher dans la pérennité. J'ai constaté une chose, je ferai un rapprochement, et je disais, cette notion de sainteté, cette notion de pureté, cette couleur bleue est tellement importante à faire. Quand on revient sur le tabernacle, je vous ai dit, quand on a compris le fonctionnement du tabernacle, on a compris comment Dieu fonctionne. Il y a un passage dans Nombre 15, verset 37-38, qui parle justement de la nécessité que l'Éternel a fait prendre au peuple. Parce qu'il a dit à Moïse, il a dit, dites au peuple, qu'il se couse un vêtement, qu'il fasse des franges sur des vêtements et qu'il me mette un cordon bleu à ce vêtement. Et ainsi, chaque fois qu'ils verront le cordon bleu, ils sauront qu'il faut qu'ils soient saints comme moi, leur père, je suis saint. Qu'ils gardent mes commandements. Et c'est seulement quand ils feront ça que moi, l'Éternel, voilà ce que je ferai. Oh. Et que de ce passage, Nombre 15, 37, 41, ça fait partie de... C'est devenu un peu un credo pour le peuple juif. C'est-à-dire que ça fait partie de la quintessence de la prière qu'ils répètent quotidiennement. C'est vous dire l'importance que ça a. Je vous ai parlé des cordages dans le message où on était en train d'étudier les instructions de Dieu. Et je vous disais que les cordages, les trois fils qui doivent constituer les cordages, c'est un fil blanc, c'est un fil bleu, c'est un fil rouge de cramoisi qui correspondent à l'œuvre de Christ à la croix, qui correspondent à la manifestation de la gloire de Dieu, à la sainteté qui est le fil bleu, et qui correspond à la sainteté de blanc du vêtement blanc des saints. La fin. Oh, et c'est tellement important. Mais gloire, gloire à toi, ô Éternel, parce que dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu nous dis, tu vas nous donner ça. Tu vas nous doter de cet équipement. Oh Dieu, nous voici, Seigneur, complètement soumis à toi. Père éternel, Dieu de gloire, accomplis cela en chacun de nous. Oui, Père éternel, délivre-nous du mal, nettoie nos cœurs, afin qu'ils soient purs, ô Père éternel, afin que nous soyons, ô Seigneur, prêts à recevoir les fondements que tu veux planter en nous, tes fondements de sainteté, ô Seigneur, de pureté, tes fondements de dureté, tes fondements de dignité, tes fondements d'intégrité, ô Père éternel, tes fondements d'humilité. Souffle en nous, ô Père, souffle de ton esprit, Père, de sainteté d'adoption, et verse sur nos têtes, Papa, l'onction qu'il faut pour que nous soyons des fils, ô Père éternel. Oh, merci parce que tu as dit que tu vas nous les donner, Seigneur. Nous te faisons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus qui a tout payé à la croix pour que nous puissions devant ton trône de grâce. Oh, nous humilier et faire cette prière, ô Père éternel. Équipe-nous, équipe mon frère, équipe ma sœur. Oh Seigneur Dieu de miséricorde. Parce qu'en réalité, mes frères et mes sœurs, Si tu n'as pas atteint la stature de fils, tu n'auras pas la capacité de bâtir. Tu ne seras même pas établi pour bâtir, pour élargir quoi que ce soit, ni pour recevoir l'onction des élus, ni pour accomplir. Tu seras encore un enfant. Dis, ce n'est pas mon lot. Ce n'est pas mon lot. Au nom de Jésus, ce n'est pas mon lot. Oh. Il y a un troisième aspect sur la notion de saphir, qui est tout aussi important, mes frères et sœurs. C'est que quand on prend maintenant le saphir, pas dans sa définition naturelle du contexte, c'est-à-dire dans sa caractéristique, on voit que le mot saphir vient d'un autre mot qui est plus profond, c'est-à-dire c'est une dérivation de ce mot-là, le mot sépha, qui, mon grand étonnement, ça caractérise celui qui est instruit, celui qui a du savoir. Celui qui sait compter, raconter, énumérer, recenser, relater, raconter, inspecter, écrire avec précision. C'est la désignation, c'est le mot qu'on utilise pour désigner un écrivain, un enseignant, un secrétaire, un scribe. Et les scribes, c'était les secrétaires, c'était ceux qui écrivaient pour la gloire de Dieu. Esdras était un scribe et c'est à lui qui a été donné la mission d'aller rétablir le culte de Dieu à Jérusalem. Alléluia, après l'exil. Paul était un scribe, assis au pied de Gamaël. Et à lui a été confié la grande mission de porter l'évangile, d'expliquer, de raconter, de relater. Alléluia. D'autres aussi l'ont été. Amen. Cela m'amène à penser que recevoir des fondements de saphir consiste de recevoir de la part de Dieu un équipement divin qui fera de toi un instruit de la parole, un instruit des lois. Un instruit des principes du royaume, qui fera de toi un raconteur, un relateur des bienfaits de l'Éternel. Que ce dépôt divin en toi te rend capable d'être un comptable pour Dieu, d'être un écrivain pour Dieu, de porter haut et de raconter haut, de relater haut, de témoigner, de compter les œuvres de gloire de Dieu. Alléluia! Je me suis dit, waouh, mes frères, mes sœurs, ici, Dieu nous parle du témoignage. Dieu nous parle qu'il nous rendra capables d'avoir un témoignage digne de sa gloire. Ce qu'on bâtit avec Dieu doit témoigner de la grandeur de l'Éternel. Parce que, quel que soit ce qui est entrepris avec l'Éternel, que ce soit tout petit, moyen ou gros, le résultat doit rendre témoignage à la gloire de Dieu manifestée. Sinon, ça n'a pas valu la peine. Alléluia! Dans tout ce que nous faisons, toute la gloire doit revenir au Père. C'est pour ça que lui-même, il a défini d'établir ses fondements. Parce que lui ne fait pas les choses à moitié, notre Père. S'il veut aller quelque part, et pas, n'oublions pas que nous sommes tous partie prenante de son plan. Lui, il est en train d'aller quelque part et il veut nous y amener. Donc quand il trouve te dire votre dispo, il t'équipe. Il façonne en toi ce qui est essentiel. Pour amener. Et je me rends compte aujourd'hui, au-delà de l'intégrité de ce qui peut être personnel à moi, Dieu veut que je sois un raconteur de son témoignage, que je sois un raconteur de sa gloire. Alléluia! Tout ce que vous faites, quand je méditais sur ça, l'Esprit me fait venir une pensée. Il a dit, nous pouvons penser même que nous avons nos projets. Et que certains projets sont tellement personnels. Ceux qui ont des projets tels que ma maladie, il faut qu'elle passe, ou bien j'ai pas d'enfant, il faut que j'aie un enfant, ou bien il faut que j'aie une maison. Ils peuvent même se dire à un moment, oh c'est un projet qui est tout qui est personnel, c'est pour moi, etc. Dieu dit qu'il n'y a pas de petit projet avec lui, parce que en toute chose, c'est sa gloire qui doit être manifestée. Alléluia. Quand je prends l'exemple de Anna, nous voyons très bien. Que le projet a été personnel pour Anna. Pendant tout le temps, rien ne s'est passé. Tant qu'elle nourrissait ça pour ne pas être insultée quotidiennement ou moquée quotidiennement par Penina, rien ne s'est passé. C'est quand elle a pris, elle a compris et qu'elle a pris la résolution que le projet qu'elle avait, le désir qui nourrissait son cœur, devienne un témoignage pour la gloire de l'Éternel. Dieu a dit, on va ensemble. Alléluia! Parce qu'à partir du moment où elle a eu la pensée inspirée en se disant, oh, mon fils là, il ne sera pas que mon fils, il sera un serviteur de l'Éternel. Il va œuvrer dans le temple. Il va parler de Dieu. Dieu a dit, ça m'intéresse ça. Alléluia. Vous allez me dire, bon, ça c'est Anna, et tout le monde, tous les enfants ne sont pas appelés à être Samuel, c'est vrai. Même si tu penses, moi, tu as un désir de te marier. Au début, tu dis, moi, je ne veux pas être seule, comment il faut quand même être machin. Oui, ça va commencer à prendre forme dans ta vie. Le jour où tu vas dire, ah, il faut que j'épouse quelqu'un qui craint Dieu. Là, Dieu commence à tendre l'oreille. Il faut que j'épouse quelqu'un vraiment qui désire faire des choses avec Dieu. Ah, ça m'intéresse, ça. Non, il faut que vraiment, dans notre couple là, pendant que quand les gens nous regardent, on voit que nous avons un Dieu que nous adorons et que nous le mettons en priorité dans notre vie. Quand ils viennent, ils voient qu'on prie, ils ont des messages, ils ont des mots de consolation qui viennent de la Bible. Dieu dit, ah ça, c'est un projet là qui va témoigner de ma gloire. Je vais regarder ça de plus près. Alléluia. C'est valable pour ton entreprise, mon frère. C'est valable pour ton entreprise. Si tu n'as pas de projet grandiose à ce que le regard, les yeux qui sont posés sur ce que tu es en train de bâtir là avec Dieu, interpelle les gens de l'extérieur et témoigne de quelque chose, d'une nature quelconque de Dieu, vous ne marcherez pas ensemble. Il ne peut pas t'équiper, te doter de ces fondements-là. Alléluia. Oh, sœur. Nous te bénissons, Papa. Nous nous abandonnons à toi, ô Éternel. Nous nous soumettons entièrement à l'œuvre de ton esprit en nous. Fais ton œuvre. Fais-nous devenir des fils à l'image de Père. Mes frères, mes sœurs, faites en tout temps des prières de consécration et de soumission à l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous. Dites, Père, nous avons compris le sens des fondements que tu veux bâtir en nous. Que votre cœur désire que ces fondements soient profondément enfoncés en vous. Je veux ici vous faire une remarque. Les fondations d'une demeure s'enfoncent dans la terre, dans le sol. Et plus le bâtiment est grand et haut, plus il s'enfonce. C'est pareil pour les fondements de Dieu. Ils doivent s'enfoncer profondément en nous. Je vais vous faire remarquer quelque chose. On a dit que ça s'enfonce dans la terre. La terre, c'est notre chair. Que les fondements de Dieu s'enfonce profondément dans notre chair, dans nos entrailles. Et quand on dit chair, ce n'est ni dans le cœur, ni dans la pensée. Je veux que vous notiez ça. C'est dans notre chair. Pourquoi dans notre chair? Parce que nous, de façon intelligente, l'être humain n'a aucune prise sur la chair. Ce qui a comme source la chair, nous n'avons aucune prise sur ça. C'est ce qui est inné, c'est ce qui est comme un instinct. Ça se déclenche, ça se passe en nous et nous ne pouvons c'est pas réfléchir. Le cerveau n'intervient pas. Il se lève et agit. Et c'est comme ça que l'Éternel veut agir en nous. C'est-à-dire que quand les fondements de l'Éternel viennent prendre le pouvoir de nous, nous ne pouvons pas lui dire tais-toi, ne fais pas. Non. C'est pour ça qu'il passe par la chair. Mes frères, mes sœurs, il y a un verset, le verset au Proverbe 20-27, qui dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de nos entrailles. La version Darby, qui est la plus proche de la traduction hébraïque, parle de cette porte de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire le souffle de vie qui apporte la vie et qui passe par le sang. Ça rentre dans le sang et ça inonde notre chair. Et ce souffle de vie, quand il est déposé au commencement de notre vie, c'est le souffle, c'est la neshama, c'est le souffle qui a animé notre corps. Il a apporté avec lui un package, un contingent de choses que l'on appelle scientifiquement les fonctions vitales de notre vie. Ce n'est pas nous. Tu es debout, tu ne contrôles pas le cœur qui bat, tu ne contrôles pas les intestins qui se contrôlent, tu ne le sens même pas. Il y a des choses que l'on appelle les fonctions vitales en nous. Et ça, c'est apporté par le souffle de vie. Parce qu'avant que le souffle de vie ne soit soufflé dans l'être, même le bébé qui naît, rien ne fonctionne en lui. Et ça va établir, ça, on appelle ça les fonctions innées, les fonctions vitales. Et c'est la même voix qui est utilisée ici par le souffle de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que c'est comme une lampe, ça se promène dans nos entrailles, ça se promène dans notre chair et ça dépose. Et c'est comme ça aussi qu'il peut déraciner de notre chair ce qui ne va pas, pour implanter ce qu'il veut. Alléluia. De façon à ce que Quand le fondement de Dieu va commencer à agir en nous, nous marchons seulement, nous ne le sentons même pas. Il prend contrôle et il se manifeste. Parce que s'il laissait que notre cerveau, nous-mêmes, nous prenons contrôle, nous pouvons ressentir sur ça, nous serons manipulés par l'ennemi. Parce que lui, malheureusement, l'ennemi ne porte pas la vie. Donc, il passe par la tête, il passe par l'intelligence, lui. Oh, je suis en train d'écrire un livre dessus. Il passe par l'intelligence. Donc, l'Éternel ne permet même pas que notre intelligence, notre pensée affecte le dépôt qu'il veut faire en nous. Alléluia. Oh, Père éternel, vas-y, emplis. Là où tu croises ce qui ne te convient pas, déracine, ruine, renverse, détruis et emplis par des fondements de saphir. Oh, Père. Lorsque nous bâtissons, quand nous ne sommes pas en Christ et quand nous ne sommes pas dans cette dimension d'évolution avec Dieu, nous établissons les règles, nos règles de vie avec notre intelligence, avec notre pensée, avec notre cœur même, parfois sont pleins de sentiments. Mais comme nous calculons trop, nous planifions trop, ce n'est pas la bonne terre. Et dès qu'il y a une petite secousse, c'est effondré, c'est écroulé, ça ne tient sur rien. Dieu dit non, moi-même, je vais établir mes fondements. En ceux avec qui je veux marcher en cette saison. Réjouis-toi! Réjouis-toi! Parce que moi, l'Éternel, j'ai décidé d'établir en cette saison mes fondements de saphir en vous. Que quelqu'un dise Alléluia! Que quelqu'un dise Alléluia! David disait, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Vraiment, quand les fondements sont renversés, le juste est perdu. Si ce sont tes fondements, laisse que l'Éternel mette ses propres fondements. Ils sont irrenversables. Ils sont indestructibles. Ils sont inviolables. Oh Dieu, merci Papa. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci au Seigneur. Oh ma prière au Père. Ma prière Saint-Esprit, c'est que tu aies ouvert le cœur de mes frères, de ma sœur, pour recevoir ce message, pour recevoir la révélation. Au Père éternel, que tu relâches dans la vie de chacun pour sa croissance dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel, établis en chacun de nous les fondements de sa fille. Puisse, ô Saint-Esprit, prendre contrôle de cœur, âme, esprit de mes frères et des sœurs pour les amener, pour les conduire à être éligibles au fondement de sa fille. C'est au nom de mon Seigneur Jésus que j'ai élevé cette prière et j'ai la ferme assurance de son exaucement. Alléluia. Alléluia. Et toute la gloire te revient, mon Père. Tu es le seul éternel. Shalom. Sois béni, mes frères. Sois béni, mes sœurs. Amen.